de rentrer en détail ce matin en studio avec Lazare Conforti.
Lazare, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de en quoi consiste cette instance de coordination du réseau antiminier à Biayala?
Ben, pour donner un peu de background, il y a l'industrie minière, en fait, au monde mondial est dominée par le Canada. Alors, il y a beaucoup de communautés qui font face aux entreprises minières canadiennes un peu partout dans le monde, particulièrement en Amérique latine, et qui se voient affectées d'une manière très, très négative, se voient affecter leur environnement, leur gagne-pain, toute leur activité économique, et donc sont en train de monter une résistance à ces entreprises-là. Et récemment, c'est-à-dire plutôt cette année, en mai, pardon, il y avait une conférence à Toronto qui réunissait plusieurs militants académiques, etc., pour parler justement de l'industrie minière canadienne et de ses effets sur la population du Sud. Et plusieurs des représentants des communautés d'Amérique latine ont lancé un appel, disons, à la société civile canadienne de mieux se coordonner pour mieux appuyer les luttes citoyennes qui se passent dans le Sud. Alors, c'est comme ça que le réseau Abiyala a été lancé. Abiyala, c'est le nom donné au continent américain au continent qu'il connaissait par le peuple Kuna qui habite dans ce qui est aujourd'hui le Panama, au centre des Amériques. Donc, ce nom-là pour le continent est utilisé par beaucoup de mouvements sociaux pour parler de l'Amérique, de son nom original. Mais en tout cas, ce réseau-là va rassembler plusieurs groupes militants plus radicaux, disons, au Canada pour mieux coordonner tous nos efforts, nos communications, etc., et pouvoir donner un appui coordonné aux luttes qui se passent sur le terrain ailleurs au monde.
OK, c'est ça. Puis parce que juste pour nous rappeler un peu grosso modo, c'est quoi les objectifs qui vont être discutés en fait à la réunion qu'on va avoir prochainement, si tu peux nous rappeler les dates?
Ben la réunion aura lieu ce samedi. Le 23 octobre à 11h à l'entraide missionnaire, si je me rappelle, l'adresse est 15 de Castelnau, donc juste à côté du métro de Castelnau. Puis c'est juste la deuxième réunion en fait de cette coalition. Alors on est encore en train de former notre mission, notre vision. On a déjà discuté de ça à la dernière rencontre, mais maintenant on va finaliser notre vision, notre énoncé de vision puis de mission, disons, et commencer à vraiment parler de quelles seraient nos actions concrètes qu'on va faire dans le proche futur. C'est-à-dire c'est encore en pleine formation. Alors, on n'a pas décidé sur grand-chose, mais on est vraiment, ici, c'est la deuxième rencontre, comme je dis, pour faire un bon brainstorm, puis bien clairement parler de ce qu'on veut faire et commencer à penser comment exactement on va le faire.
OK, puis maintenant, pour parler un peu plus de la thématique des minières, justement, il y a une question de résistance contre les activités minières de communautés affectées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur de quelle manière sont affectées les communautés, puis pourquoi c'est important, cette résistance-là, aux activités minières?
Okay. Première façon dont ils sont affectés, c'est leur environnement. On parle ici de mines à ciel ouvert. Puis ça, c'est une méthode en fait d'extraction minière qui est très différente de la méthode classique qu'on connaît, qui consiste de creuser des tunnels. Les mines à ciel ouvert, ça c'est quand il y a vraiment pas beaucoup, il y a juste des traces de minerais qui restent dans la terre. Alors on va creuser un immense trou, un cratère qui peut avoir 2 km de diamètre, 500 mètres de profondeur ou plus, et on va transformer toute cette terre là en le mélangeant avec plusieurs produits chimiques, tel la cyanure, pour pouvoir extraire le minerai en utilisant ce procédé chimique. Alors en faisant ça, il y a un énorme montant de poussière qui se retrouve dans l'air. Il y a ces espèces de bassins où on va faire cette extraction chimique qui crée beaucoup de substances toxiques qui peuvent contaminer la nappe phréatique. Donc, la première chose à laquelle les communautés s'opposent, c'est cette cette espèce de dégradation de leur environnement, souvent de leur gagne-pain, parce qu'on parle, c'est de ces mines-là, c'est dans les régions rurales, souvent agricoles. Alors, on va voir la mine vraiment faire concurrence aux paysans pour qui utilisent l'eau là pour pousser leur bouffe. La mine va vraiment concurrencer parce qu'elle utilise une quantité énorme d'eau. On parle des milliers de litres par seconde. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, ben, j'avais déjà parlé, c'est l'aspect économique. Bien sûr, il y en a qui vont perdre leur gagne-pain si c'est dans une zone agricole, mais il y en a toujours d'autres qui vont vouloir accéder aux jobs, disons, qui sont un peu mieux payés dans les mines-là. Et on peut avoir beaucoup de conflits sociaux entre les personnes. Souvent, c'est des personnes, en fait, qui viennent à l'extérieur de la communauté qui est juste à côté de la mine, qui viennent d'une ville, une main-d'œuvre spécialisée qui va travailler dans la mine, qui va s'installer dans cette région-là, qui va entrer en conflit avec la population locale qui a ses propres raisons pour résister à la mine. Ou bien, ça va être même des conflits dans la communauté elle-même. Si on engage les gens de la communauté, on a souvent les hommes qui travaillent à l'extérieur de la maison qui vont dire ben on a besoin du cash, puis qui vont entrer en conflit avec leur propre femme dans leur famille, qui pensent plus à la santé des enfants puis à la qualité de l'eau, etc. Donc ça entre dans ces dynamiques de rôle de genre là qui sont ben toujours un peu traditionnels, mais ça les met en conflit direct.
Au niveau des conflits aussi, parfois il n'y a pas, disons, de division entre la vision par rapport aux mines dans les communautés, puis les communautés entières se soulèvent, en fait, résistent contre l'implantation des minières. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi qui se passe dans ces cas-là, par exemple dans le cas d'une communauté autochtone qui refuse carrément l'implantation d'une minière dans sa région?
Ben, il y a plusieurs façons de résister. Tout le monde a fait à sa façon. Puis, il y a des communautés qui ont décidé de bloquer des routes entières pour empêcher les camions d'accéder à la mine. Il y en a d'autres qui ont organisé des référendums pour vraiment, pour utiliser des lois qui existent, qui disent que la population locale doit être consultée, ce qui est rarement fait. Alors, ils vont organiser des assemblées populaires, des forums, des référendums populaires pour vraiment manifester leur opposition. Il y en a d'autres qui vont utiliser une route plus légale si ça existe. Parce que souvent les lois minières sont comme les nôtres, tout est en faveur de la compagnie. Donc il y a plusieurs façons de résister du légal à l'action vraiment directe, bloquer les routes, etc., mettre des chaînes sur les portes de la mine. Et mais dans tous les cas, c'est les communautés qui sont en défense de leur vie, de leur façon de vivre, de leurs moyens de résistance, de subsistance, pardon. C'est une lutte vraiment défensive primordiale contre une attaque pour le profit.
OK. Pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler quand va être l'événement de la Coordinadora Biayala, en fait l'instance de coordination du réseau anti-minière Biayala?
Donc, ça va avoir lieu ce samedi, le 23 octobre, 11h du matin à 5h de l'après-midi, toute une journée à l'entraide missionnaire, c'est 15 de Castelnau, juste à côté du métro de Castelnau, ligne bleue. Puis on invite tous les groupes écologistes qui ont travaillé sur l'extraction minière des ressources naturelles au Québec aussi, pour bien faire les liens entre notre résistance québécoise et celle au sud. Il y a beaucoup à gagner, je pense, à coopérer.
Ben, merci beaucoup.
Merci à toi.